Chapitre 31 L'œuvre du service. Betsaléel et Oholiab. Ce court chapitre s'ouvre par le récit de l'appel divin de Betsaléel et d'Oholiab, divinement qualifiés pour exécuter l'ouvrage du tabernacle. L'Éternel parla à Moïse, disant « Regarde, j'ai appelé par nom Betsaléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda, et je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu en sagesse et en intelligence et en connaissance pour toutes sortes d'ouvrages. Et voici, j'ai donné avec lui Oholiab, fils d'Akisamac, de la tribu de Dan, et j'ai mis de la sagesse dans le cœur de tout homme intelligent afin qu'il fasse tout ce que je t'ai commandé. » Versets 1 à 6. Que ce soit pour l'ouvrage du tabernacle à cette époque ou pour l'œuvre du service maintenant, Éphésiens 4, verset 12, « Il faut que ceux qui sont employés soient choisis de Dieu, appelés de Dieu, qualifiés de Dieu et établis de Dieu. Tout doit être fait selon le commandement de Dieu. Il n'était pas au pouvoir de l'homme de choisir, d'appeler, de qualifier ou d'établir des ouvriers pour faire l'ouvrage du tabernacle, et il en est de même pour l'œuvre du service ou ministère. Tout cela doit venir entièrement de Dieu. On peut courir de son propre chef ou être envoyé par des collègues, mais souvenons-nous que tous ceux qui courent sans être envoyés par Dieu seront un jour ou l'autre couverts de honte et de confusion. » Les paroles de Jean-Baptiste « Un homme ne peut rien recevoir à moins qu'il ne lui soit donné du ciel » Jean 3, verset 27, seront toujours vraies. On peut tirer une leçon utile de la comparaison de ce chapitre avec ce que nous trouvons en Genèse 4. Tubal-Caïn fut forgeur de tous les outils d'airain et de fer. Verset 22. Les descendants de Caïn étaient doués d'intelligence profane pour faire d'une terre maudite un lieu agréable loin de la présence de Dieu. Betsaléel et Oholiab, au contraire, étaient doués d'intelligence divine pour embellir un sanctuaire qui devait être béni par la présence et la gloire du Dieu d'Israël. Posons à notre conscience cette question solennelle : est-ce que je consacre ce que je puis posséder d'intelligence ou d'énergie aux intérêts de la demeure de Dieu ou à l'embellissement d'un monde impie ? Ne disons pas en notre cœur : je ne suis ni appelé ni qualifié pour son œuvre. Souvenons-nous que, bien que tout Israël n'ait pas été composé de Betsaléel et d'Oholiab, tous pouvaient servir néanmoins les intérêts du sanctuaire. Il y avait pour tous une place, et maintenant aussi chacun a une place à occuper, un ministère à remplir, une responsabilité dont il doit s'acquitter. Vous et moi, nous travaillons dans ce moment, ou pour les intérêts de la maison de Dieu, du corps de Christ, de l'Église, ou pour favoriser les plans impies d'un monde encore entaché du sang de Christ et du sang de tous les martyrs. Le sabbat et le jour du Seigneur. Ce chapitre se termine par une allusion à l'institution du sabbat. On trouve le sabbat au chapitre 16 en rapport avec la manne. Puis il est expressément ordonné dans le chapitre 20, alors que le peuple fut formellement placé sous la loi. Et ici nous le retrouvons en rapport avec l'établissement du tabernacle. Toutes les fois que le peuple d'Israël est présenté dans une position spéciale, ou qu'il est reconnu comme peuple placé sous une responsabilité spéciale, nous retrouvons le sabbat. Considérons attentivement la manière dont le sabbat devait être observé, ainsi que le but dans lequel il fut institué en Israël. Et vous garderez le sabbat, car il vous sera saint. Celui qui le profanera sera certainement mis à mort, car quiconque fera une œuvre en ce jour-là, cette âme sera retranchée du milieu de ses peuples. Pendant 6 jours, le travail se fera, et le 7e jour est le sabbat de repos consacré à l'Éternel. Quiconque fera une œuvre le jour du sabbat sera certainement mis à mort. Versets 14 et 15. Voilà qui est aussi explicite et aussi absolu que possible, établissant le 7e jour et aucun autre, et défendant positivement, sous peine de mort, toute espèce d'œuvre en ce jour-là. et rien dans l'Écriture n'indique que le sabbat a été changé ou que Dieu a relâché les principes rigoureux de l'observation de ce jour. Et voilà que des chrétiens prétendent garder le sabbat de Dieu au jour et de la manière qu'il l'a commandé. Ils oublient que la moindre infraction du sabbat était punie de mort. Mais, dira-t-on, nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce. Romains 6, verset 14. Béni soit Dieu de ce qu'il en est ainsi. Si nous étions sous la loi, nous serions tous, depuis longtemps, tombés sous le coup du jugement, quant au seul et unique point du sabbat. Mais si nous sommes sous la grâce, quel est le jour qui nous appartient? C'est assurément le premier jour de la semaine, le jour du Seigneur. C'est le jour de l'Église, le jour de la résurrection de Jésus. Ayant passé le sabbat dans la tombe, Jésus ressuscita en ce jour, triomphant de toutes les puissances des ténèbres. Il conduisit ainsi son peuple hors de la vieille création et de tout ce qui s'y rattache, dans la nouvelle création dont il est le chef, et de laquelle le premier jour de la semaine est justement l'expression. La différence qu'il y a entre ces deux jours mérite toute notre attention. Un simple nom peut avoir une grande portée, et il en est ainsi dans le cas qui nous occupe. Il est bien évident que le jour du Seigneur tient dans la parole de Dieu une place toute particulière. Aucun autre jour n'est appelé du nom glorieux de « jour du Seigneur ». Il y a des personnes, je le sais, qui nient que l'expression « journée dominicale » en Apocalypse 1, verset 10, désigne le premier jour de la semaine, mais je suis pleinement convaincu que, et la saine critique et la saine exégèse garantissent l'application de ce passage, non au jour de la venue de Christ en gloire, mais au jour de sa résurrection d'entre les morts. Le jour du Seigneur n'est jamais appelé « sabbat », bien loin de là. Nous avons à nous garder de deux extrêmes. En premier lieu, nous devons éviter le légalisme qui se trouve si souvent associé au mot de sabbat. Et en second lieu, nous devons témoigner contre tout ce qui pourrait déshonorer le jour du Seigneur ou le rabaisser au niveau d'un jour ordinaire. Le croyant est délivré de la manière la plus complète de l'observation des jours et des mois et des temps et des années. Galates 4, verset 10. Son union avec un Christ ressuscité l'a complètement affranchi de toutes ses observances. Colossiens 2, versets 16 à 20. Mais tout vrai que cela soit, nous voyons que le premier jour de la semaine occupe une place à lui dans le Nouveau Testament. Sachons la lui donner. C'est un doux et heureux privilège, non un pénible joug. Sans entrer dans plus de détails sur ce sujet, je signalerai quelques points de contraste entre le sabbat et le jour du Seigneur. Premièrement, le sabbat était le septième jour, le jour du Seigneur est le premier. Deuxièmement, le sabbat était une pierre de touche de la condition d'Israël, le jour du Seigneur est la preuve de l'acceptation du croyant sans conditions aucune. Troisièmement, le sabbat appartenait à la vieille création, le jour du Seigneur appartient à la nouvelle. Quatrièmement, le sabbat était un jour de repos corporel pour le juif, le jour du Seigneur est un jour de repos spirituel pour le chrétien. Cinquièmement, si le juif travaillait le jour du sabbat, il devait être mis à mort. Si le chrétien ne travaille pas le jour du Seigneur, il prouve par là qu'il n'a guère de vie, c'est-à-dire s'il ne travaille pas au profit des âmes, à l'extension de la gloire de Christ et de la vérité. De fait, le chrétien dévoué, qui possède quelques dons, est généralement plus fatigué à la fin du jour du Seigneur qu'à la fin d'aucun autre jour de la semaine. Car comment pourrait-il se reposer, tandis que les âmes périssent autour de lui? Sixièmement, il était ordonné aux Juifs, par la loi, de demeurer dans sa tente le jour du sabbat. Le chrétien est conduit au dehors par l'esprit de l'Évangile, soit pour assister aux réunions de l'Assemblée, soit pour annoncer l'Évangile aux pécheurs qui périssent.